Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu.
15 minutes d'actu.
15 jusqu'à 19h
avec Bintili.
Move! 18h45, vendredi 12 avril, vous écoutez 15, bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez, perso moi je suis touchée par cette marche blanche qui a eu lieu aujourd'hui en hommage à Shemseddine, cet ado tué à Viry-Châtillon la semaine dernière, on va en parler. Fawzi vient de garer sa DeLorean, il revient du futur, ce week-end c'est la fin de la saison régulière en NBA. Avant les playoffs, Victor Wembanyama et les Spurs ne seront pas de la partie, mais dans 3 ans ça va changer selon Fawzi. Notre invité de la semaine c'est Olivier Kissita, acteur et réalisateur qui cumule 200 cas avec sa vidéo humoristique sur le quotidien des acteurs noirs en France. Et avec notre askipeuse Marion Pépin. Salut Marion.
Salut Bintili.
Focus sur le retour médiatique de Mila à Skip, ça en a choqué plus d'un.
Oui, surtout que ce n'est plus du tout la Mila de 2020.
Mais avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qui tourne dans les médias ?
15.
Ça dit quoi ? Ça dit quoi ce 12 avril ? Ça dit ça.
La foule présente en ce moment à Viry-Châtillon dit l'émotion qu'a suscité la mort de Shemseddine dans la commune. Une marche blanche vient tout juste de s'élancer et c'est une commune en deuil qui participe.
Les habitants sont toujours extrêmement choqués par ce déferlement de violence.
Des centaines de personnes se sont déplacées.
Alors il y a beaucoup de ballons, beaucoup de roses blanches, de t-shirts blancs, des jeunes aussi parfois de 15 ans, l'âge de Shemseddine, Shems comme ses amis l'appelaient, des visages graves avec des yeux parfois cachés sous des lunettes de soleil pour dissimuler l'émotion, les larmes qui coulent. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans, s'étrangle une agente municipale, trop tôt pour mourir, surtout pour des raisons aussi futiles, dit-elle. L'enquête pour l'instant s'oriente vers un conflit sur fond de discussion par texto avec des messages qui évoqueraient de la sexualité. 4 jeunes hommes de 17 à 20 ans sont mis en examen pour assassinat et sont en prison en ce moment en attendant leur procès.
Pour Jamila, venue d'une commune voisine, c'était important d'être là, elle s'est confiée à BFM.
Je suis venue de Saint-Michel-sur-Orge pour soutenir la famille de Shemseddine, que je ne connaissais pas. Mais dans la peine qui les touche, je crois qu'il n'y a plus de ville, on est tous ensemble. C'est un deuil énorme. Cette marche blanche est utile pour montrer qu'on est là et qu'une vie d'un jeune adulte comme ça, qui est fauché à même pas à 15 ans, c'est inadmissible.
La mère de Shemseddine a fait lire un message. Elle souhaite, je cite, que la paix et la solidarité guident chacun de nos pas et que Shemseddine repose en paix.
Change ta gestuelle, chantage sexuel, au boulot t'as intérêt d'être manuel.
Sébastien Lecornu réagit donc après la publication dans la presse de nombreux témoignages de militaires dénonçant des actes d'agression sexuelle au sein de l'armée. Le ministre lance une mission d'inspection pour évaluer les mesures de prévention, de protection des victimes et de sanction des agresseurs mises en place au sein de la Grande Muette. C'est une première.
Et la peur doit changer de camp.
Si une victime parle, elle doit être écoutée, entendue et protégée, écrit Sébastien Lecornu. Pour le ministre des Armées, le commandement militaire doit appliquer une tolérance zéro à l'égard des agresseurs sexuels présumés. Désormais, en cas de suspicion de viol ou d'agression sexuelle, le militaire sera systématiquement suspendu le temps de l'enquête. Il n'aura plus le droit d'approcher la victime et un signalement sera fait au procureur. Et si les faits sont avérés, il devra être rapidement et sévèrement sanctionné.
Laetitia Saint-Paul, députée Renaissance et capitaine de l'armée Terre se félicite de ce changement de cap.
Quand une victime dénonce un problème, elle devient le problème. Les affaires jusqu'à présent étaient largement étouffées, ce qui fait dire à la cellule Témis, donc de lutte contre le harcèlement, que les chiffres sont très faibles. Et si l'on compare par exemple avec les chiffres de la gendarmerie, c'est sans commune mesure. Donc la Grande Muette porte bien son nom et sur ce sujet, elle a même été aveugle.
On termine avec le retour de Nouvelle École. Netflix vient de lâcher le teaser de la saison 3 de sa compétition de rap. On y voit la Queen Aya Nakamura et SDM, les deux nouveaux, en plus du fidèle SCH. Les images sont léchées, les jurés hyper lookés. Le rendez-vous est donné pour le 4 juillet, ça promet.
Move
15,
tous les jours, 18h45,
avec Bintili.
Marion, on revient sur la polémique de la semaine avec le retour de Mila. Ça s'est passé sur RMC et BFM. Mila, c'est cette jeune femme de 20 ans qui avait vivement critiqué l'islam sur ses réseaux il y a 4 ans. Elle avait reçu des menaces de mort. Lundi, on l'a redécouvert dans les médias et à Skip, beaucoup ont critiqué ce choix de l'inviter.
Après l'affaire Mila en 2020, la jeune femme avait dû quitter son lycée. Elle vivait cachée sous protection policière pour avoir déclaré « Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le le trou du cul, merci, au revoir. Ce sont les propos qu'elle a tenus sur l'islam lors d'un live Instagram. Elle avait ensuite reçu des menaces de mort et de viol. 11 personnes ont été condamnées en 2021 pour cyberharcèlement. Et lundi, Mila est de retour, invitée dans la matinale d'Apolline de Malherbe, très écoutée à cette heure-là. Elle y parle de laïcité, de religion, mais on se demande un petit peu ce qu'elle fait là. Surtout que la Mila d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la Mila d'il y a 4 ans, détaille Alexis Lévrier. Il est spécialiste en histoire des médias.
On l'invite comme quelqu'un qui défendrait la laïcité et c'est plus du tout ce qu'elle incarne. Elle incarne maintenant les milieux d'extrême droite, identitaire, xénophobe, hostile aux musulmans et pas simplement critique de l'islam. Il faudrait lui dire, alors à ce moment-là, elle se présente comme la membre d'un collectif identitaire voulant revenir à une France pure et figée dans ses valeurs chrétiennes. C'est ça qu'elle est aujourd'hui.
Marion, pourquoi RMC a fait ce choix d'inviter Mila ?
Alors j'ai contacté la direction, je n'ai pas eu de réponse officielle. Mais d'après Alexis Lévrier, c'est parce que BFM et RMC, qui appartiennent au même groupe, sont en crise d'audience, mais aussi en crise d'image et d'identité.
BFM, RMC n'arrivent pas à inventer un modèle pérenne face à CNews et ils ont tendance à faire la même chose et donc à reprendre les mêmes thématiques, immigration, identité, islam. C'est cette porosité entre l'écosystème Bolloré et les autres médias audiovisuels qui explique qu'on ait invité Mila pour de mauvaises raisons, sans rappeler ce que cette jeune fille est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne le camp identitaire et non pas la critique d'une religion.
Mais Marion, on le rappelle, en France, on peut critiquer l'islam.
Oui, tout à fait. C'est possible en France, dans une société laïque, comme critiquer n'importe quelle autre religion ou croyance, mais c'est possible à condition de ne pas inciter à la haine ou à la violence, rappelle Maître Julien Martin. Il est avocat au barreau de Strasbourg et spécialisé en droit pénal.
On reste dans une liberté d'expression si on est dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Mais si, sous couvert de débat d'intérêt général, le véritable objectif est de créer un véritable amalgame, une véritable discrimination et une incitation à la haine, là, on n'entre plus du tout dans ce cadre.
Mais l'avocat est inquiet. La communauté musulmane est trop souvent victime d'amalgame, que ce soit dans les sphères privées, politiques ou médiatiques. Beaucoup font un rapprochement entre terrorisme islamiste et religion musulmane et conséquence, le nombre d'actes islamophobes, menaces, violences, incitations à la haine est en hausse depuis des années.
Merci beaucoup Marion pour ce décryptage.
Move. Du lundi au vendredi, 18h45-19h.
15 minutes d'actu avec Bintili.
Fauzi vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera la dernière journée de saison régulière en NBA avant les playoffs. Tous les matchs vont se disputer en même temps. Ça marquera la fin de la première saison de Victor Wembanyama en NBA avec les Spurs. Les Spurs qui ne disputeront pas les playoffs, mais à l'avenir, ça va changer, Fauzi.
On est le 6 juin 2027 et dans les rues de San Antonio, les supporters des Spurs revivent 13 ans plus tard le dernier titre avec la génération Tony Parker. Les Spurs redeviennent champions NBA grâce à Victor Wembanyama, qui a d'ailleurs été élu MVP des finales. Un titre en guise d'adieu avant de rejoindre la saison prochaine les Bulls de Chicago. Retour à aujourd'hui. Victor Wembanyama va donc disputer dimanche son dernier match de la saison avec les Spurs face à Détroit. Les Spurs, cette saison, collectivement, ça ne valait rien. Les Spurs sont derniers de la conférence Est, mais individuellement, pour sa première saison NBA, Wemby a été à la hauteur avec 24,6 points en moyenne, des stats qui le rapprochent des débuts d'un certain Shaquille O'Neal, légende de la NBA. Wemby a été élu 2 fois rookie du mois, le trophée de rookie de l'année, meilleur jeune donc de l'année, lui tend les bras. Et ce qui a impressionné aussi les observateurs, c'est sa qualité en défense. Son 2m24 l'aide bien à contrer les adversaires. Certains le voient bien nommé meilleur défenseur de l'année. En tout cas, Adam Silver, le puissant boss de la NBA, est très satisfait.
C'est vraiment passionnant. Il est très vite devenu une icône internationale. Il a tellement de cordes à son arc. Il parle plusieurs langues. C'est vraiment quelqu'un à part.
Fin de saison pour Wemby, donc, qui aura tout le temps de se préparer pour les JO de Paris cet été.
Merci beaucoup, Fauzi. Hâte de découvrir ton futur voyage.
Jusqu'à 19h. 15
minutes d'actu avec Bintili.
L'invité de 15 cette semaine, c'est Olivier Kissita, acteur et réalisateur. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites le buzz en ce moment avec 2 vidéos sur les réseaux où vous parlez de la vie des acteurs noirs en France.
Je suis un acteur noir en France. Bien sûr que si tu me vois à l'écran, je serai soit un mec de banlieue, soit le faire-valoir du blanc, soit un sportif, soit un gay.
Why are you gay?
Bien sûr que je dois amener au travail mon peigne, ma brosse, ma crème, ma tondeuse et parfois même mon propre make-up. Bien sûr qu'on m'a déjà demandé de faire l'accent africain. Bien sûr que pour percer, il faut que je passe par la case comique de service. Bien sûr qu'à chaque tournage, chaque casting, chaque cérémonie, chaque soirée mondaine, quand j'arrive, dans ma tête, ça fait...
Salut les blancs.
Bien sûr que dès que je commence à parler des noirs...
Ça veut dire quoi
Ça veut dire qu'on est raciste, c'est ça?
Hey,
Omar Sy, Kylian Mbappé, Aya Nakamura, d'accord?
Bon.
Et vas-y, dors maintenant, rigole!
C'est terrible, tout ce que vous racontez, c'est ça votre vie d'acteur noir en France?
C'est ça mon quotidien et le quotidien de plein d'autres collègues, camarades que j'ai.
Pourquoi vous avez choisi l'humour?
Il faut se rendre audible. L'humour, c'est cool parce que c'est un média simple, léger, à travers lequel on peut lier la forme au fond.
On vous propose peu de rôles, pas de rôles ou que des rôles stéréotypés?
Vous l'avez bien résumé, mieux que moi.
Donnez-nous des exemples, comment ça se passe votre carrière?
Le micro. Grand, l'objet sexuel, le mec de banlieue, voilà. Alors après, ce qui est magnifique, c'est que heureusement, il y a toujours des personnes qui arrivent à être très ouvertes d'esprit en France. Le deuxième point vraiment fabuleux, c'est que j'ai des très belles propositions aussi à l'extérieur de la France, notamment en Côte d'Ivoire et au Congo en ce moment. Des industries naissantes, mais avec de magnifiques projets et de plus en plus de financement, donc c'est cool.
C'est quoi les rôles qu'on vous propose là-bas, qu'on vous propose pas ici?
Des rôles principaux. Déjà, des rôles qui sont importants pour l'intrigue du film. Des rôles, je dis dans les vidéos, d'êtres humains. Dans le sens où, en règle générale, ici, il n'y a pas de color blind casting, comme ce qu'on pourrait retrouver, par exemple, aux États-Unis.
Alors, c'est quoi color blind casting?
C'est un casting dans lequel on fait passer des acteurs et sont retenus les meilleurs acteurs qui correspondent au rôle, les meilleures prestations, pas les couleurs. Ici, en fait, on a besoin d'un noir parce qu'on imagine un noir dans un rôle. On passe pas comme des êtres humains, quelque part.
Vous dénoncez encore des biais racistes dans la façon dont on vous perçoit sur les plateaux, dans les castings et dans la façon dont on s'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Il y a des blagues qui sont pas vraiment des blagues qu'on m'a faites souvent. L'un des premiers rôles les plus importants qu'on m'a donné, que j'ai eu la chance d'avoir, c'était en 2015-2016. Et lors de la rencontre avec l'un des producteurs, je me rends compte qu'il dit bonjour à tout le monde, donc il serre la main à tout le monde. Et quand il arrive à moi, il dit, donc soi-disant une blague, ah non, je dis pas bonjour au noir. Il se met à rigoler, tout le monde rigole. Et moi, c'est le premier jour, voilà, et il s'est passé plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, il y a des blagues, il y a des raccourcis, et puis surtout, il y a des réactions très limitantes dont on peut être victime. Bon, après, l'idée, c'est de ne pas rester dans cette position un peu victimaire. Et j'imagine qu'il est plus intelligent déjà d'en rire, ensuite d'en parler, plutôt que de garder ça pour soi, et puis de créer et de faire ce qu'on peut nous-mêmes.
Quel retour vous avez sur ces vidéos? J'ai vu qu'il y a énormément de reposts d'acteurs, actrices racisés. J'ai l'impression que vous avez soulevé une chape de plomb.
C'est vrai que c'est un genre de tabou, bizarrement, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on est dans une ère un peu où les langues se délient. J'ai eu effectivement beaucoup de magnifiques retours et surtout beaucoup de témoignages. Ce qui est bien et un peu triste aussi, c'est que j'ai entendu des choses tellement horribles que ça nous a fait rigoler. Et la personne qui me l'expliquait et moi qui l'entendais. Donc on se rend compte, l'air de rien, que les gens sont très contents de se retrouver, qu'on parle d'eux et de leur vécu. C'est en voyant ces retours que tu te dis, bah t'as bien fait de faire cette vidéo. Moi j'essaye, d'où d'ailleurs l'idée de Lucas, l'union cinématographique audiovisuelle des Afro-descendants, je pense à cette idée d'union.
Alors justement, c'est quoi cette union? Vous voulez vous rassembler pour faire porter une voix plus forte sur ces sujets?
Exactement, il y a vraiment deux citations qui caractérisent bien l'idée. C'est « pour être pris au sérieux, il faut être nombreux, tout seul on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin. Donc, le postulat, c'est qu'effectivement, il y a une sous-représentation, donc une mal-représentation, plutôt que de rester dans une posture un peu, voilà, on attend, victimaire et tout, d'une potentielle arrivée, d'un changement ou quoi, organisons-nous. Et d'ailleurs, je pense que je peux le dire, dans une semaine, donc le vendredi 19 avril à 19h, rue Jean Massé, dans le 11e, se tiendra la première réunion officielle de Lucas.
Voilà. Et ce sera à Paris, on suivra ça de près. Vous parlez aussi du physique, coiffure, maquillage, barbe. On ne sait pas magnifier les corps racisés au cinéma français.
J'ai déjà entendu une interview de Sana Alatan, grande actrice afro-américaine, qui l'expliquait aussi. Donc c'est pas quelque chose de français. Mais c'est en fait, on va dire, peut-être cette histoire de référence de beauté. On a plus l'habitude de sublimer un certain profil. Quand il s'agit de d'autres profils, là du coup, peut-être que la formation n'est pas efficace. Moi, de manière très concrète, plusieurs fois, et dans des grosses productions, la maquilleuse m'a dit, tout en maquillant quelqu'un qui n'avait pas mon profil, non, toi, t'as pas besoin.
Et on dit, vous n'avez pas besoin, vous avez la peau noire, la peau est parfaite, y a rien à faire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'une, tout le monde a besoin. On regarde dans les films, par exemple, afro-américains, c'est pas pour à chaque fois me comparer, mais on a des très beaux films avec un all black cast. Ils sont tous maquillés,
ils sont tous sublimés.
On a tous le droit d'être sublimés. En Asie, pareil, etc. Donc pourquoi pas les peaux noires ?
Selon vous, il y a peu de rôles valorisants dans la fiction française pour les acteurs noirs, car elle est subventionnée en partie par l'État. Est-ce que l'État est raciste ?
Je ne sais pas si c'est mon rôle de dire ça. Je pense clairement qu'il y a des réels problèmes en termes de représentation. La place de l'État est centrale. Si tu n'as pas le cachet CNC, les subventions et tout ce qui va avec, ton film n'a pas de vie, tout simplement. Il ne fonctionne même pas, c'est qu'il n'existe pas. Sur les 300 films qui sortent par an, lorsqu'on voit les films à l'écran, tout le monde ne se reconnaît pas, pas du tout même. Et je ne parle pas que des Noirs. Est-ce que l'État est raciste ? Ouais, je pense que l'État est raciste en vérité. Je m'intéresse pas à la politique ou quoi, c'est pas mon rôle de partir sur ce genre de polémique, mais personnellement, je crois, ouais.
Merci beaucoup Olivier Kissita d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes acteur et réalisateur. À bientôt.
À bientôt, merci.
Interview à retrouver en longueur la semaine prochaine sur YouTube, sur la deuxième chaîne de Move. En attendant, je vous laisse avec Anis Salif et Farah pour moins de 10K. Merci à Sybille Clamins pour la réalisation de cette émission. Bon week-end les amis, et à lundi pour un nouvel épisode de 15.
15.